VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour, bienvenue. Un cortège d'habitants du quartier musulman de Bangui. Le PK5 a déposé ce matin devant le QG de la mission de l'ONU en Centrafrique la MINUSCA, les corps de 17 personnes tuées selon eux mardi dans des violences. Les affrontements ont opposé hier une patrouille de casques bleus et de forces armées centrafricaines à des milices armées du PK5, tuant un casque bleu et faisant au moins 46 blessés. C'était chaud hier dans la capitale centrafricaine. Retour sur le déroulé des événements mardi avec notre correspondant sur place, Freeman Tsipila.
Hier, les militaires centrafricains et les forces de sécurité intérieure, avec les soldats de la MINUSCA, ont repris les opérations de désarmement des bandes armées dans le PK5, le grand quartier musulman de la capitale centrafricaine. Ces opérations se sont soldées par des affrontements qui ont provoqué la mort de plus d'une vingtaine de civils, plusieurs dizaines de blessés. En majorité, des civils sont également enregistrés lors de ces opérations. Le PK5 reste toujours paralysé. On enregistre aujourd'hui plusieurs centaines de déplacés à la mosquée centrale, la grande mosquée de la capitale. Par ailleurs, on ne connaît pas encore le bilan côté militaire. On nous parle d'un soldat rwandais de la MINUSCA tué dans les affrontements. En plus de cette situation, hier, une mutinerie a eu lieu à la maison centrale de Ngaraba. Les détenus, profitant d'une manifestation contre la saisie de leur téléphone portable autorisé par les autorités, ont voulu s'évader. La mutinerie a été maîtrisée par les gardes de la prison. À Bangui, Freeman Tsipila pour VOA Afrique.
Les États-Unis ont annoncé mardi la levée de l'interdiction d'entrée sur leur territoire imposée aux Tchadiens en affirmant que le Tchad avait répondu aux exigences de Washington. Anne Alberson.
Le président américain Donald Trump a annoncé que le Tchad avait mis à niveau ses normes de sécurité pour qu'elles correspondent aux exigences de base de la sécurité nationale américaine, a indiqué le département de la sécurité intérieure dans un communiqué. Conséquence, les nationaux tchadiens pourront donc de nouveau avoir des visas pour se rendre aux États-Unis. L'interdiction sera formellement levée le 13 avril. Le ministre des Affaires étrangères tchadien, Sherif Mahamat Zen, a salué la nouvelle sur Twitter. Le Tchad se réjouit d'être supprimé de la liste des pays dont les ressortissants sont interdits d'entrer aux États-Unis et espère renforcer encore le partenariat stratégique et la coopération entre les deux pays, a-t-il écrit. Le Tchad avait été intégré en septembre à la liste des pays visés par le décret migratoire interdisant le franchissement des frontières américaines pour manquement à la sécurité et manque de coopération avec Washington. Tous les citoyens du Tchad avaient été interdits d'accès au territoire américain.
Au Burundi, 21 personnes présentées par leur famille comme des membres d'un club de tennis de table qui avait été arrêté lundi à Bujumbura pour atteinte à la sécurité du Burundi ont été libérées dans la soirée. De nombreux opposants se sont félicités sur Twitter de ces libérations, tout en dénonçant la paranoïa qui s'est emparée, selon eux, des autorités burundaises. Parmi les 21 se trouvait le président de la Confédération des syndicats libres du Burundi, Gilbert Niawakira. Cette affaire est intervenue à l'approche du référendum constitutionnel du 17 mai qui pourrait permettre au président Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005, de briguer à partir de 2020 deux autres mandats de 7 ans. L'armée congolaise a lancé une offensive dans le sud Kivu. Un chef milicien, deux gardes du corps et une femme ont été tués dans les combats. Abdourahmane Dia.
Le capitaine Dieudonné Kasereka, porte-parole adjoint de l'armée dans le sud Kivu, a indiqué que le chef rebelle Karakara, dont le groupe porte son nom, et deux de ses gardes du corps ont été tués près d'Uvira et de la frontière du Burundi. Selon lui, le chef milicien a rencontré une patrouille de l'armée qui mène des opérations militaires intenses dans la zone depuis le début de l'année. L'officier précise que Karakara faisait partie des groupes rebelles qui se coalisent avec d'autres groupes congolais ou étrangers, comme les FNL burundais. Il les accuse d'être à la base de l'insécurité dans la plaine de Ruzizi par des braquages de véhicules et le vol de bétail. Selon un responsable de la société civile locale, une femme a également été tuée. Karakara est un ancien capitaine des forces armées congolaises. Il a rejoint la rébellion fin 2013 avant de créer sa propre faction rebelle. Plusieurs groupes armés opèrent dans les régions du nord et du sud Kivu, dans l'est du pays.
Huit athlètes camerounais participant aux Jeux du Commonwealth à Gold Coast en Australie ont disparu, a annoncé aujourd'hui la délégation qui craint une défection pour ne pas rentrer au Cameroun où l'armée et des séparatistes anglophones s'affrontent depuis plusieurs mois. 3 haltérophiles et 5 boxeurs se sont évaporés dans la nature depuis mardi, a indiqué donc l'attaché de presse de la délégation, Simon Molombe, précisant que la police australienne avait été informée.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Une centaine de militaires étaient à bord de l'appareil de l'armée algérienne qui s'est écrasé aujourd'hui près de la base aérienne de Boufarik, à une trentaine de kilomètres au sud d'Alger, a indiqué à l'AFP une source militaire algérienne. Aucun bilan n'était disponible dans l'immédiat. Selon cette source qui a requis l'anonymat, l'avion, un Ilyushin 76, un appareil militaire de fabrication soviétique puis russe, capable de transporter environ 120 passagers. Un vol Moscou, Le Caire, va marquer ce mercredi la reprise des liaisons aériennes directes entre la Russie et l'Égypte, suspendue fin 2015 après l'attentat contre un charter russe au-dessus du Sinaï, entraînant de dures conséquences pour l'économie égyptienne. Prévue à 17h50 GMT aujourd'hui, le décollage du vol de la compagnie publique russe Aeroflot depuis l'aéroport de Moscou, Sheremetyevo, ne constitue qu'un tout premier pas avant le retour de charters susceptibles d'acheminer en masse les touristes russes vers les plages des stations balnéaires égyptiennes. Demain jeudi, ce sera le tour d'Égypte Air qui va donc reprendre ses liaisons entre les deux capitales et au total, les deux compagnies effectueront 5 rotations par semaine. Un soldat tunisien a été tué par balle lors de heurts avec des islamistes armés dans la région montagneuse de Kasserine, dans l'intérieur marginalisé du pays. Des heurts ont opposé en début de nuit une patrouille militaire et un groupe d'hommes armés qui tentaient de se procurer de la nourriture dans des habitations isolées près du mont Mjila, a précisé à l'AFP le porte-parole du ministère de la Défense, le colonel Belassène Ouest-Lati. Un jeune caporal blessé est décédé dans la nuit, a-t-il précisé. Il n'y a pas eu d'autres blessés chez les militaires ni d'arrestations. Le secrétaire d'État français aux affaires étrangères Jean-Baptiste Lemoyne est attendu aujourd'hui aux Comores pour tenter d'aplanir les tensions avec cet archipel au sujet de l'immigration sur l'île française de Mayotte. Les autorités françaises ont multiplié dernièrement les expulsions vers leur île d'origine de Comoriens sans papier arrivés à Mayotte. Moroni, qui revendique la souveraineté sur l'île de Mayotte, a riposté en refusant de laisser rentrer sur son territoire ses citoyens refoulés. À Washington, il est 7h07. Et vous écoutez la voix de l'Amérique. Mark Zuckerberg va de nouveau affronter aujourd'hui les questions de parlementaires américains sur les divers scandales qui empoisonnent Facebook après avoir déjà passé 5 heures devant les sénateurs mardi lors de sa première apparition. Très attendu, le jeune dirigeant a fait face aux nombreuses questions des sénateurs qui lui ont demandé des comptes sur sa gestion des mauvais usages de la plateforme, de la protection des données jusqu'à la manipulation politique. Le patron de Facebook a de nouveau présenté ses excuses personnelles pour ne pas avoir compris à temps à quel point Facebook pouvait être détourné de bien des façons. C'était mon erreur, je suis désolé, a-t-il dit. Un ministre du gouvernement birman se trouvait aujourd'hui dans les camps de réfugiés abritant près d'un million de Rohingyas au Bangladesh. Première visite de ce type depuis un exode massif de cette minorité musulmane de Birmanie. L'année dernière, près de 700 000 Rohingyas ont fui la Birmanie depuis août dernier pour échapper à des violences considérées par l'ONU comme une épuration ethnique menée par l'armée. Et le Kremlin a mis en garde aujourd'hui contre tout acte en Syrie pouvant déstabiliser la situation déjà fragile dans la région. Les menaces de frappe des Occidentaux contre le régime de Damas, accusé d'être responsable d'une attaque chimique. Les Occidentaux, Washington en tête, ont fait planer la menace d'une riposte militaire imminente contre le régime de Bachar al-Assad après une attaque chimique présumée dans le bastion rebelle de Douma près de Damas, imputé au régime qui dément toute responsabilité. La Russie, alliée indéfectible du régime syrien, dément toute utilisation d'armes chimiques et a mis en garde contre des frappes qui auraient de graves conséquences. Moscou a opposé hier son veto au Conseil de sécurité à un projet de résolution américain visant à créer un mécanisme d'enquête indépendant sur le recours supposé aux armes chimiques en Syrie. Jean-Roger Billon à ce microphone. Le prochain journal, ce sera dans 50 minutes exactement. Le journal vous sera présenté par Henri Francisque. Bon après-midi à tous sur le continent. Au revoir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.